Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. Une nouvelle attaque en Israël a fait 5 morts, dont 2 Ukrainiens, hier soir dans la banlieue de Tel Aviv. La journée de la Terre commémorée par les Palestiniens comme tous les 30 mars, en souvenir d'une grève lancée après la confiscation de terres par Israël en 1976, entretien avec Bertrand Helbron, président de l'association France-Palestine Solidarité. La coalition arabe suspend ses opérations militaires au Yémen durant le Ramadan. Les députés irakiens appelés une troisième fois à se réunir pour élire le président de la République. Enfin, le Maroc et la Tunisie qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar. En Israël, 5 personnes ont été tuées hier soir dans des attaques à Bnei Brak, dans la banlieue de Tel Aviv. La police a abattu l'assaillant. Parmi les victimes de cette attaque figurent 2 ouvriers ukrainiens de 23 et 32 ans et un policier arabe israélien de 32 ans. L'une des victimes est un rabbin. La police redoute de nouvelles attaques dans les heures qui viennent. Il s'agit des troisièmes attaques en Israël en une semaine. Dimanche à Hadera, dans le nord d'Israël, 2 policiers, dont une franco-israélienne, ont été tués dans une fusillade revendiquée par l'organisation djihadiste État islamique. Hier soir, Emmanuel Macron a réagi en affirmant que le terrorisme a une nouvelle fois frappé Israël. Le président français a condamné avec la plus grande fermeté ces attentats meurtriers, en ajoutant qu'Israël peut compter sur le soutien de la France et sur son engagement total dans la lutte contre ce fléau. Comme tous les 30 mars, les Palestiniens commémorent la journée de la Terre en souvenir d'une grève et de manifestations réprimées par Israël en 1976, un mouvement de grève qui avait été décidé à la suite de la confiscation de 2500 hectares de terre en Galilée. À cette occasion, associations, syndicats et partis politiques se donnent rendez-vous place de la République à 18h30 à Paris. L'association France-Palestine Solidarité participera à ce rassemblement. On écoute son président Bertrand Helbron.
Alors déjà, c'est effectivement pour les Palestiniens une commémoration des grandes révoltes de 1976, hein, où les Palestiniens avaient partout répondu pour protester contre la confiscation des terres en Galilée. Et ce mouvement avait été réprimé dans le sang. Et donc depuis lors, c'est cet anniversaire du 30 mars, c'est pour les Palestiniens un jour très important parce que à la fois ils expriment leur attachement à la terre et leur refus des politiques qui les confisquent. Hein, parce que cette confiscation des terres palestiniennes, elle continue partout, bien sûr.
Sur la guerre en Ukraine, le président palestinien a critiqué le deux poids, deux mesures des Occidentaux. Qu'en pensez-vous?
Alors, je dirais que il faut se dire d'abord une chose, c'est que le droit ne doit pas se diviser. C'est-à-dire que nous-mêmes, hein, même en tant que France-Palestine Solidarité, qui ne sommes centrés sur la question palestinienne, nous avons, par un communiqué, condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que nous considérons qu'une telle violation du droit international à nos portes est particulièrement grave. Nous comprenons l'émotion, hein, qu'il y a partout en Europe, parce que, je veux dire, c'est quand même notre paix à nous aussi qui est menacée. Donc on ne peut pas se lancer en tant que Français dans tout ce qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, représenter une concurrence victimaire. En revanche, quand on dit que le droit ne se divise pas, et que les mesures à prendre pour faire appliquer le droit ne se divisent pas, on voit se dérouler devant nous toutes les mesures qu'on demande effectivement pour que Israël se conforme au droit et toutes les sanctions qui devraient être prises. Donc il est clair que on voit bien que quand elle le veut, l'Europe est capable d'agir. Et bien évidemment, nous allons le rappeler aux dirigeants français et européens qu'il est vraiment temps de faire respecter le droit international par Israël, notamment par des sanctions. Une de nos revendications les plus importantes, c'est que l'accord d'association qui a été signé au tout début des années 2000 entre l'Union européenne et Israël, c'était quand même pour encourager Israël à aller dans le sens de la paix, et que effectivement tout a été fait absolument dans le sens complètement opposé. Donc une de nos revendications clés par rapport aux sanctions, c'est bien sûr la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Mais je veux dire, nous sommes aussi dans des revendications et des campagnes plus précises. Nous nous centrons cette année notamment sur trois sujets, hein, qui sont Gaza, l'apartheid et l'initiative citoyenne européenne. Si on veut se conformer au droit international, l'Union européenne ne doit tout simplement pas être complice de violations du droit. L'occupation, la colonisation, plus exactement la colonisation, est un crime de guerre au sens du droit international. Donc importer des produits des colonies, c'est une manière d'encourager ces crimes de guerre. Donc c'est une demande que nous faisons depuis longtemps, hein, que les produits des colonies soient interdits dans les magasins, de commercialisation dans l'Union européenne. On voit que l'Union européenne s'engage dans cette voie pour d'autres raisons. Elle s'engage dans cette voie, par exemple, pour interdire les produits qui viennent de Crimée, ou bien qu'elle ne veut pas, elle a bien raison, commercialiser en Europe des produits du travail forcé. Ce qu'on demande, c'est que l'Union européenne, effectivement, ne laisse pas rentrer, commercialiser dans son espace des produits des colonies israéliennes. Et là, l'initiative citoyenne, c'est un moyen qui est prévu par les traités européens. Après une longue bataille juridique, elle a été enregistrée par l'Union européenne. Et là, les citoyens ont le pouvoir. Ça veut dire que si nous arrivons à réunir d'ici le 20 février prochain 1 million de signatures, eh bien, la Commission européenne devra traiter notre demande effectivement, et on fera pression pour qu'elle soit mise en œuvre. Ce 30 mars, c'est vraiment l'occasion pour nous d'abord de rappeler effectivement que c'est un régime d'apartheid que subissent les Palestiniens. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est dit, redit et étudié de très près d'un point de vue juridique par les grandes ONG, Human Rights Watch et plus récemment Amnesty. Nous allons promouvoir, comme nous l'avons dit, notre initiative citoyenne européenne, et puis nous allons aussi lancer notre campagne pour la levée du blocus de Gaza, une campagne qui est à la fois unitaire avec d'autres organisations en France et qui est aussi au niveau européen, parce que au mois de juin, nous serons à 15 ans de blocus. 15 ans de blocus pour la population de Gaza, c'est quelque chose d'inimaginable, de totalement inhumain, de totalement impossible à supporter. Et là, ce que nous demandons, c'est une levée immédiate et inconditionnelle.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken achève sa tournée régionale par une étape en Algérie aujourd'hui. Ces deux derniers jours, il s'est rendu au Maroc où il a eu des entretiens avec les dirigeants marocains et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed El Nahyan. Une trêve dans la guerre au Yémen durant le Ramadan, c'est ce qu'a annoncé la coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite. Les opérations militaires seront stoppées pendant le mois de jeûne, une trêve qui est entrée en vigueur ce matin. En Irak, les députés sont à nouveau appelés à élire le président de la République. Par deux fois, le scrutin n'a pas pu avoir lieu en raison du boycott des députés appartenant à une coalition chiite. Le scénario pourrait se répéter une troisième fois aujourd'hui. Le Parlement tunisien tient ce mercredi une séance plénière en visioconférence. Cela malgré la suspension des activités de l'Assemblée des représentants du peuple, décidée par le président Kais Saied en juillet dernier. Les précisions du député du mouvement Tayatounes, Marwan Felfel.
Il y a une trentaine de députés de différents blocs parlementaires qui ont adressé une demande signée à la présidence du Parlement pour la tenue d'une session plénière de l'Assemblée depuis les décisions du 25 juillet stipulant le gel des activités, la suspension de l'activité parlementaire et les activités du Parlement tunisien. Vu le contexte économique et la crise économique et sociale que le pays connaît, l'incertitude par rapport au calendrier politique de cette période transitoire est pour appeler à la fin des mesures d'exception créditées par le président de la République le 25 juillet 2021. Le bureau de l'Assemblée s'est réuni avec la présence de 7 membres et le boycott de 4 autres, et qui a décidé par la majorité des présents la tenue d'une session plénière demain pour discuter et voter la décision du fin des mesures d'exception. Cette plénière se déroulera par une visioconférence vu les conditions actuelles, d'où l'impossibilité de se réunir dans le siège du Parlement qui est toujours fermé par les forces de l'ordre.
Quelle sera la valeur de ce vote, sachant que le Parlement est gelé depuis le 25 juillet dernier?
Je crois que sur les faits, il n'y aura pas un changement réel sur le terrain, mais ça reste un appel au dialogue, un appel au redressement du processus politique entamé depuis le mois de juillet, d'appeler à plus de participation des différentes parties prenantes, c'est-à-dire partis politiques, organisations nationales, parce que depuis le 25 juillet, il n'y a pas eu ce dialogue national tant souhaité par plusieurs acteurs de la société tunisienne, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, les organisations nationales.
C'est un moyen de faire pression sur l'exécutif, cette réunion de ce mercredi?
Certainement, parce qu'il y a eu une concentration de tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et même judiciaires, vu la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature récemment par le président de la République. Alors c'est un appel à redresser le process et à redresser ce changement politique et l'accompagner.
Le député tunisien du mouvement Taïa Tounes, Marwan Felfel, interrogé par François-Xavier de Calonne. L'invité de Pluriel hier soir était Mélanie Vogel, sénatrice Europe Écologie Les Verts, représentant les Français hors de France, soutien de Yannick Jadot lors de l'élection présidentielle. Le candidat écologiste a annoncé une loi de séparation de l'État et des lobbies. Les explications de Mélanie Vogel.
Vous savez, j'ai passé 10 ans de ma vie avant d'être élue sénatrice au Parlement européen et je suis une des personnes responsables du fait que les députés européens doivent aujourd'hui déclarer leur rendez-vous avec les lobbyistes. Le contrôle des lobbies a toujours été au cœur du projet des écologistes, non seulement parce que c'est une question d'éthique, de démocratie, de transparence, mais parce qu'on sait aussi que beaucoup d'avancées écologiques sont entravées par des intérêts privés qui ont effectivement un accès démesuré aux responsables politiques. Il est tout à fait normal que des intérêts s'expriment, divers et variés, et que les politiques les écoutent, mais nous avons aujourd'hui des intérêts très puissants qui ont des accès privilégiés. Vous me posez la question sur moi en tant que sénatrice. Je vais vous prendre un exemple assez récent, la directive sur la protection des lanceurs d'alerte, directive européenne que nous avons dû transcrire en droit français récemment pour protéger les femmes et les hommes qui ont le courage de dénoncer des faits à l'encontre de l'intérêt général qui peuvent se passer dans leurs entreprises, etc. On a eu un lobby de l'agroalimentaire extrêmement puissant, qui a fait retourner la position du Sénat en commission parce qu'il ne voulait surtout pas qu'on puisse protéger les personnes qui, par exemple, comme L214, dénoncent dans les abattoirs des faits contraires à la loi de maltraitance animale. Voilà, c'est un exemple. Je vous donne un autre exemple. On a découvert, c'est vos confrères du Monde, qui révélaient qu'une lobbyiste du vin a eu un rôle très important au sein à l'Élysée et maintenant dans la campagne d'Emmanuel Macron, et c'est pas neutre, ça a eu des conséquences sur la politique gouvernementale en matière de prévention de santé publique. Donc en fait, la place que l'on donne aux lobbies, c'est pas les lobbies le problème, c'est la responsabilité des politiques, qu'est-ce qu'ils en font, la place qu'on leur donne très souvent, malheureusement, a tendance à produire des politiques publiques qui vont à l'encontre de l'intérêt général.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est contraint de consommer des produits alimentaires qui sont parfois toxiques, en tout cas dans leur composition.
Oui, c'est une des raisons. C'est une raison aussi pour laquelle on ne s'est pas engagé davantage sur la transition énergétique. C'est une des raisons pour laquelle on n'a pas amorcé la transition agricole vers une agriculture raisonnée, écologiste, respectueuse des agriculteurs et des agricultrices et aussi de notre environnement qui est de nature à produire une nourriture qui nous rend moins malades et rend moins malade notre planète. Donc oui, effectivement, et c'est pour ça que Yannick Jadot propose ce qu'il appelle une loi de séparation de l'État et des lobbies, qui n'a pas vocation, encore une fois, à interdire les intérêts privés à s'exprimer, mais qui a vocation à réguler la manière dont les responsables politiques travaillent avec eux et la manière dont ils sont influencés.
Notamment à travers les conseillers de l'Élysée, de Matignon, des ministères qui ensuite vont travailler dans le privé, dans ces groupes que vous appelez des lobbies.
Qui vont travailler dans le privé, puis qui reviennent dans le public. Et c'est ça le problème, et c'est en effet quelque chose, moi pour bien connaître le niveau européen, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup, toujours insisté, les écologistes, pour dénoncer ces faits-là, puisque on voit très bien qu'il y a des connivences à haut niveau. C'est pas pour faire de la théorie du complot, mais c'est des choses que j'ai vues très concrètement. Oui, bien sûr, donc c'est extrêmement important.
Mélanie Vogel, sénatrice écologiste représentant les Français hors de France, soutien de Yannick Jadot lors de l'élection présidentielle. Elle était l'invitée de Pluriel sur Radio Orient hier soir, émission que vous pouvez écouter sur radioorient.com. Le nombre de réfugiés ukrainiens à l'étranger a franchi la barre des 4 millions, mais de nombreux civils ne parviennent pas à fuir en raison des mauvaises conditions de sécurité. Le président Macron a tenté de convaincre hier le président Poutine de permettre l'évacuation des habitants de Mariupol, mais selon le président français, les conditions ne sont pas réunies à ce stade. Le Maroc et la Tunisie qualifiés pour la Coupe du Monde de football au Qatar. Le Maroc s'est imposé ce mardi face à la République démocratique du Congo 4-1 et la Tunisie a fait un match nul face au Mali. En revanche, l'Algérie n'ira pas au Qatar. Elle a été battue par le Cameroun, une grosse déception. Les Algériens n'ont pas participé à un mondial depuis 2014 et c'était au Brésil. Cette édition est terminée. L'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h est Geoffrey Carvalino, conseiller régional d'Île-de-France, membre de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal, à 12h30 le journal en arabe de Roger Khoury, à partir de 14h, Sawa animé par Zouhour. Excellente journée à tous.